en séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques réunis en séance le lundi 29 novembre 2010, Jean Cluzel, ancien sénateur de l'Allier et par ailleurs président fondateur de Canal Académie, a traité du thème « démocratie et responsabilité ». Le thème de la démocratie est en effet celui qui a été choisi par le président Jean Ménard comme thème de réflexion pour l'année 2010. Entrez dans la salle des séances et grâce à Canal Académie, écoutez Jean Cluzel.
Monsieur le chancelier, monsieur le secrétaire perpétuel, chers confrères, mesdames, messieurs, démocratie et responsabilité. Pour traiter ce sujet, il faut remonter à la source athénienne et donc à la définition de Socrate. La démocratie est le meilleur régime à condition que le peuple soit éduqué. Il s'agit là d'une règle fondamentale de responsabilité dont, à nos yeux, personne ne devrait s'affranchir. Et Jacqueline de Romilly l'a confirmé dans un discours prononcé sous la coupole en octobre 2008. Pour elle, l'éducation a pour objectif de mener un être à l'accomplissement propre des qualités de l'espèce humaine que sont l'esprit, le caractère, l'aptitude à la vie en société. J'insiste, l'aptitude à la vie en société. Par-delà quelques 25 siècles, quel plus fidèle écho donner à Socrate ? Ainsi se trouve jalonnée la longue quête des hommes décidés en citoyens responsables à mettre en place et à faire vivre le gouvernement démocratique des collectivités territoriales auxquelles ils appartiennent. La démocratie est donc à la fois la doctrine qui confère à la majorité des citoyens la souveraineté politique et la forme de gouvernement selon laquelle cette responsabilité est exercée. C'est en fonction de cette définition que je présenterai trois séries de réflexions consacrées au vécu de la démocratie dans notre pays. Esquisse d'une sociologie de la démocratie, démocratie territoriale, démocratie et constitution. Esquisse, je devrais dire plutôt modestement, esquisse d'une esquisse de sociologie de la démocratie. À qui veut réfléchir sur la gestion collective des affaires de la cité se pose trois questions. Quelle configuration pour la collectivité ? Quel mode de désignation de ses élus ? Quelle étendue de leur pouvoir ? Voici trois analyses en réponse. La première, l'universalité démocratique peut être relative. Pour la France, on peut avancer qu'entre 1789 et 1946, cette universalité fut souvent relative en raison des cas de rejet ou de non-inclusion de certaines catégories du peuple. Les trop jeunes, en se souvenant que le mot « enfance » est dérivé d'un mot latin signifiant « celui qui ne s'exprime pas ». Les exclus, religieux ou raciaux, les femmes, jusqu'en 1946, parce qu'elles étaient considérées politiquement comme irresponsables, d'ailleurs, elles n'étaient pas juridiquement indépendantes. Sans doute convient-il de rappeler que si le Sénat, entre les deux guerres, en régime de bicamérisme équilibré, a refusé d'accorder le droit de vote aux femmes, les responsables en sont, en toute honnêteté, les sénateurs de gauche au nom de la défense de la République laïque. La lecture du compte-rendu des débats sur cette question ne manque du reste pas de piquant. Force est de convenir que ces exclus de la démocratie ont pu, selon les époques, subir une sorte de dictature de la démocratie, telle qu'on l'envisageait époque par époque. Il est donc utile, pour en prendre la mesure, de citer deux déclarations faites à deux siècles de distance. La première, l'universalité relative. La seconde, l'universalité totale. Le Chapelier, en 1791, auteur de la loi supprimant tous les corps intermédiaires, résumait bien les idées jacobines de l'époque dans la formule « Il n'y a plus que l'intérêt particulier » de chaque individu et l'intérêt général. Alors qu'en Amérique, dans son premier discours de chef d'État, Barack Obama martelait les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres, mais aussi les noirs, les blancs, les hispaniques, les asiatiques, les indiens d'Amérique, n'ont jamais été une somme d'individus. Nous sommes et serons toujours les États-Unis d'Amérique. Deuxième réflexion, la volonté démocratique doit s'imposer. Plus celle-ci est forte, plus elle est moralement responsable. Chaque auteur, conscient de ses décisions, doit répondre de ses actes avec toutes les conséquences, y compris les sanctions. La responsabilité entraîne cette acceptation. D'ailleurs, l'expression « endosser la responsabilité » signifie exactement la porter sur son dos. Nous pouvons donc constater que la responsabilité démocratique est biface. À titre individuel, elle s'adresse à ceux capables d'assumer leur vie librement et individuellement selon les idéaux de la Déclaration française de 1789. Et à titre collectif, celui qui sait s'assumer lui-même, ses biens, sa famille, se doit, et il a le droit, d'assumer le bien commun, c'est-à-dire celui de la collectivité. Il est alors permis d'affirmer qu'est responsable celui qui est juridiquement indépendant. En effet, l'exercice de la démocratie est indéniablement lié au statut juridique de la citoyenneté. Est entièrement responsable celui qui, par son statut juridique, fixant ses droits et ses devoirs, est assuré de la totale liberté de ses opinions, de ses choix et de ses actes. Par conséquent, la démocratie politique est bien un effet collectif de la liberté individuelle, mais à condition que toutes les garanties nécessaires soient accordées aux citoyens. C'est à Ringgold que je ferai appel lorsqu'il propose cette définition. Est, dit-il, démocratique, un système politique au sein duquel les citoyens disposent effectivement du contrôle ultime des décisions collectives, et ce, sous la garantie d'institutions fiables. Deux mots me paraissent essentiels, trois mots même, contrôle, garantie, fiabilité, et ce sont ces trois mots qui sous-tendront mes deuxième et troisième parties. Enfin, dernière réponse pour cette première partie d'exposé, ces analyses étant faites et ces principes posés, une problématique que l'on pourrait dire moderne s'offre alors en deux questionnements. D'abord, ceux qui se croient d'authentiques démocrates sont-ils vraiment libres et indépendants? Et la deuxième, assument-ils toutes leurs conséquences de leur liberté et de leur indépendance? J'examinerai trois niveaux différents. D'abord, à l'échelon gouvernemental. Le mécanisme électoral, tel qu'il fonctionne dans beaucoup de pays, répond-il en conscience à l'objectivité d'une responsabilité commune? Il faut en effet noter que le système fait souvent endosser des responsabilités par un gouvernement qui n'était pas aux affaires lors d'une décision ayant entraîné soit le succès, soit l'échec. Le raccourcissement en France de la durée du mandat présidentiel fut-il une heureuse décision ou le résultat de haine plurielle, avec pour première conséquence une campagne électorale permanente? Dans nos démocraties, il est bien difficile d'être le spectateur impartial. Et je pense à Raymond Boudon, lorsque, par votre bouche, cher Jean Béchler, il évoquait le spectateur impartial. Il est bien impossible de l'être, et il est pourtant nécessaire au bon fonctionnement des institutions. À l'échelon parlementaire, il semble que s'amplifie une déviation grave de la démocratie. Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que l'opinion exige des négociations longues, mais des solutions rapides, qui ne sont pas sans risque. Par exemple, remarquons que si la nostalgie de la participation fut longtemps justifiée, elle est aujourd'hui amplement satisfaite en raison de l'ubiquité de l'information, par Facebook, par Twitter et autres formes d'intervention rendues possibles grâce à Internet. Grâce à Internet, les citoyens disposent d'un accès politique direct sans équivalent dans l'histoire. Et pourtant, nous avons souvenir que Michel Houellebecq, tout récemment, n'a pas craint de déclarer qu'il ne se considérait pas comme citoyen, tout en souhaitant néanmoins, je cite, « qu'il y ait plus de démocratie directe et donc davantage de référendums. Pour préciser les risques que l'exercice de la démocratie doit à l'omniprésence des médias, je citerai notre confrère Raymond Boudon lorsqu'il attire l'attention sur les rapports existants entre l'opinion publique et la vie démocratique. Les médias, dit-il, ont mis en place divers procédés destinés à donner à l'auditeur ou au téléspectateur le sentiment de lui fournir des images fiables de l'opinion publique. Or, il n'est pas sûr que ces images soient aussi fiables qu'elles voudraient le laisser entendre. Elles doivent donc être appréciées d'un œil critique, sinon elles risquent de frapper la vie démocratique de cécité plutôt que de l'éclairer. Tout le problème, mes chers confrères, c'est d'exercer l'œil critique. Mais rarement constat s'applique mieux à notre pays depuis quelques années. Heureusement, Monsieur le Président, le programme de cette année de notre Académie répond au vœu que finisse par s'imposer une démocratie efficace, animée par des hommes véritablement libres et véritablement responsables. Deuxième partie, démocratie territoriale. Nous n'avons pas toujours en conscience que la démocratie républicaine n'était pas une affaire de tout ou rien acquise une fois pour toutes. La démocratie, nous le savons, est multiple en ses formes et, si l'on peut dire, en ses doses. En vérité, il n'y en a jamais autant qu'il faudrait et pour qu'il y en ait le maximum, il n'est qu'une solution, une seule, que les pouvoirs soient organisés afin d'échapper à la confiscation par un individu, un parti, un gang ou encore une nomenclatura. Il faut donc qu'une partie au moins du pouvoir s'exerce le plus près possible de ceux qui sont concernés par ces décisions. Il en résulte qu'un régime républicain véritable ne comporte pas seulement à sa tête une autorité, il suppose aussi un étagement, mais un étagement réduit d'organes de discussion et de décision afin que les gestions des affaires quotidiennes restent entre les mains responsables de ceux qu'elles concernent et qui peuvent mieux que personne en juger. Alors sur cette question, où en est la France ? La décentralisation envisagée par le programme de la gauche lors des présidentielles de 81 était bien une idée démocratique qui, d'ailleurs, ne lui appartenait pas en propre. Mais les régions telles qu'elles ont été instituées en mars 1982 prirent un tout autre chemin. Au lieu de rendre aux collectivités locales les pouvoirs que la centralisation leur avait enlevés, ceux-ci furent redistribués à des monarques régionaux, encore plus jaloux de leurs prérogatives que les bureaux parisiens. On avait voulu couper la tête du vieux dragon Léviathan, mais en la remplaçant par 22 têtes régionales. C'était l'aboutissement, chers confrères, de deux choix politiques complémentaires. Le premier sur les motifs, entraînant le second sur une substitution de motifs. Je m'explique. Le choix des motifs réside en ceci que, mis à part l'épisode de 40 à 44, l'idée régionale s'est développée dans une optique qui n'était pas décentralisatrice, mais technocratique. Il s'agissait de donner un certain cadre à la politique d'aménagement du territoire et d'intervention du gouvernement sur le plan économique. En 55, 22 régions de programme, qui deviennent en 60 les circonscriptions d'action régionale, puis la réforme de 64 créant les commissions de développement économique régional qui rassemblaient en leur sein des élus et des socioprofessionnels, et enfin la réforme de 72 sur laquelle je veux insister, donne naissance à des collectivités spécialisées à compétence d'attribution, les établissements publics régionaux qui fonctionnèrent de 72 à 82. Puis, ce fut la rupture de mars 82, en raison d'une substitution de motifs, la région, en devenant une collectivité territoriale englobante, fut dotée de pouvoirs propres de planification, de gestion et de réglementation. Certes, une loi de janvier 83 prescrit le respect de l'autonomie et de l'intégrité des collectivités territoriales existantes, puisqu'elle exclut toute tutelle. Mais il est à peine besoin de relever qu'une telle affirmation est un défi à la réalité politique, comme si la région pouvait ne rien décider, qui est une incidence sur l'action des départements qui la composent. Ce ne fut donc pas une étape nouvelle de décentralisation, mais la mise en place d'une superstructure englobante. On a donc offert aux Français une réforme de leurs institutions territoriales en instaurant la régionalisation, mais une fois de plus, il faut constater les conséquences de la brutalité idéologique qui consiste à concevoir un système dans l'abstrait et à l'appliquer en allant jusqu'au bout d'une logique sans en imaginer les inévitables répercussions. Et maintenant, près de 30 ans se sont écoulés depuis l'adoption des lois de mars 82. Et c'est, on ne le sait pas assez, et c'est calmement mis en place l'intercommunalité adoptée par plus de 90% des 36 500 communes de France. C'est que, chers confrères, les structures communales françaises, nous le savons, uniques au monde par leur nombre, sont chez nous indispensables au bon fonctionnement de la démocratie territoriale. Dans un pays où les partis ne disposent que d'un petit nombre de militants, où les médias considèrent comme un exploit la réunion de 15 à 20 000 cotisants pour créer un parti politique sous nos yeux en ce moment, eh bien, les élus territoriaux représentent une organisation démocratique forte de plus de 500 000 personnes. Si j'ai consacré la deuxième partie de cette communication aux collectivités territoriales, c'est parce que le Parlement vient de voter un texte qui permettra, il faut l'espérer, de fusionner la gestion des deux structures, département et région. C'est aussi avec l'intention, Monsieur le Président, de marquer l'intérêt constant de notre compagnie pour la décentralisation, puisque le 9 mai 1983, il y a bien longtemps, votre prédécesseur Jean Cazeneuve, qui présidait cette année-là, m'avait demandé d'esquisser les conséquences des lois de 82, qu'il n'avait pas été difficile de prévoir, sur centralisation, sur fiscalisation, sur politisation. J'en arrive à la troisième partie, démocratie et constitution. Toute la pratique de la Ve République est dominée par la permanence d'un fait sur lequel tout le schéma constitutionnel avait été bâti en 1958, le fait majoritaire. Ou, plus exactement, l'émergence régulière de majorités qui, à proprement parler, sont beaucoup plus présidentielles que parlementaires. Cette émergence est due à l'effet dominant de l'élection du président de la République au suffrage universel direct, à partir de décembre 1965. Son effet a été amplifié par le scrutin majoritaire qui, sauf en 1986, fut adopté pour les élections législatives. Cette nouveauté dans la vie politique française, après l'expérience de la IVe République, explique et justifie la rationalisation du régime qui allait avoir des conséquences déterminantes sur le régime lui-même. Alors, par rapport à nos voisins britanniques et allemands, où fonctionne le parlementarisme majoritaire, nous n'avons jamais, sur une longue période, su l'acclimater en France. C'est ce que de Gaulle appelait la vieille propension gauloise à la division. En définitive, le système de la Ve République apparaît comme le résultat d'une réflexion conduite sur l'ensemble de l'expérience constitutionnelle française. En témoigne un passage du mal français que nous connaissons tous, mais je voudrais rappeler d'Alain Perfit, qui écrit ceci. « Guérir un mal qui durait depuis 3 siècles, je crois bien que c'était l'ambition suprême de Charles de Gaulle, bien qu'il ne l'eût jamais proclamé. Je n'ai pas fondé une nouvelle république, me dit-il un jour. J'ai simplement donné des fondations à la république qui n'en avait jamais eu. Et une autre fois, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'opérer la synthèse entre la monarchie et la république. Une république monarchique, fis-je, si vous voulez, plutôt une monarchie républicaine. » Voici les propos rapportés par Alain Perfit. Il en fut ainsi de 58 à 86. L'autorité présidentielle put, durant cette période, s'appuyer sur une majorité parlementaire en concordance politique. Et puis, à partir de 81, ce fut un ensemble de tourbillons. Et là, je vous demande toute votre indulgence pour ce passage de ma communication. À partir de 1981, la France, soit par la volonté du peuple, soit par celle de ses gouvernants, a dû subir de nombreux bouleversements que je vais vous demander la permission de vous rappeler brièvement. Trois fractures en 16 ans, de 1986 à 2002, sous les apparences d'une continuité constitutionnelle que j'appellerai formelle. Pendant 16 ans, 9 furent vécus en cohabitation. 2 Mitterrand-Chirac, 86-88. 2 Mitterrand-Balladur, 93-95. 5 Chirac-Jospin, 1987-2002. On ne saurait oublier deux spectacles pour le moins déconcertants. Le premier, au cours de ces 9 années, furent régulièrement tenues toutes les réunions du Conseil des ministres sous la présidence d'un homme qui n'intervenait pas dans le débat, mais qui néanmoins devait promulguer des lois contraires aux engagements que lui-même antérieurement avait pris à l'égard du pays. Se retrouvaient donc à la tête de l'État non pas deux partenaires, mais deux adversaires. Adversaires, vous l'avez compris, au sens de représentants de formations politiques adverses, car il arrive que l'on soit au gouvernement en étant adversaire. Non, là, ce sont deux personnalités représentant des formations politiques adverses. Et le second spectacle, quelques dizaines de réunions internationales auxquelles participaient pour la France le président et le premier ministre, ceci au nom d'une loi non écrite, j'insiste, non écrite, celle des pouvoirs réservés du président de la République française. Celles et ceux qui ont pu la nuit dernière regarder la chaîne parlementaire auront vu la première séance d'une rencontre internationale à laquelle participait M. Mitterrand et M. Chirac. On a mis à la place d'honneur M. le Président de la République et à la 31e place dans le forum qui se tenait à l'ONU, le Premier ministre. C'était la nuit dernière sur la chaîne parlementaire. Du 14 juillet 1986 date la naissance de la cohabitation politique à la française. Au printemps 1986, Michel Debré avait déclaré que si le président de la République, François Mitterrand, refusait le moment venu de signer les ordonnances préparées par le gouvernement de Jacques Chirac, celui-ci devrait poser la question de confiance à l'Assemblée nationale et que, si elle était votée, le président de la République aurait à choisir entre se soumettre ou se démettre. Et les historiens se souviennent de ce qui s'était passé au début de la Troisième République avec MacMahon. L'argumentation politique de Michel Debré consistait à prendre en compte la volonté alors exprimée par le corps électoral, primant celle d'un président élu 5 ans auparavant sur un programme fondamentalement différent. Mais tel ne fut pas le cas puisque le 14 juillet 1986, sur le perron du palais de l'Élysée, non pas du tout à la table du Conseil des ministres, mais sur le perron du palais de l'Élysée, au cours d'une interview, M. Mitterrand, devant des millions de téléspectateurs, déclare qu'il ne signerait pas les ordonnances et, contrairement à l'avis de Michel Debré, le gouvernement se courba. Il semble bien que le Premier ministre ait suivi les conseils de ceux qui voulaient refuser le combat à visage découvert afin de préparer l'alternance par des voies plus sereines. On pourra rétorquer que l'Allemagne et la Grande-Bretagne savent démocratiquement se satisfaire de majorités parlementaires dépassant les fractures politiques, mais après négociation publique d'un pacte de gouvernement sous le regard attentif et les votes du Parlement. Peut-être nous faudrait-il tirer quelques leçons de l'expérience du pouvoir sous la Ve République du point de vue du sujet qui nous intéresse, démocratie et responsabilité. Dans le tome 3, page 12 de C'était de Gaulle, Alain Perfit, que je cite encore, fournit une explication sur l'attitude française. Je le cite. François Mitterrand, en nommant Chirac, puis Balladur, et Chirac, en nommant Jospin, n'ont pas imaginé faire d'eux leurs délégués. Ils ont abandonné la légitimité déléguée par le président de la République pour la légitimité transférée par le Parlement. Telle était l'analyse d'Alain Perfit. Hélas, nos confrères de la section de l'économie seraient mieux à même que moi d'indiquer les conséquences des bouleversements de politique économique et financière dont les dates sont les suivantes, 81, 83, 86, 88, 93, 97, 2002, la politique économique et financière de la France a été bouleversée 7 fois. En additionnant les deux, on s'aperçoit qu'au fil des ans, trop de gouvernements sont en France satisfaits de compenser leurs erreurs dispendieuses, d'abord par des dévaluations et ensuite par des emprunts. On ne s'étonnera donc pas qu'au fil des ans se soit installée en France une angoisse si profonde que Jean-Paul Delevoye n'a pas craint de l'appeler dans son dernier rapport comme médiateur de la République une lassitude psychique. En réalité, elle n'est que le résultat des désordres à la tête de l'État autant que de l'imbroglio des structures territoriales. Les uns et les autres ont eu pour principale conséquence, et c'est là, me semble-t-il, l'aspect dramatique de la situation pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, pour conséquence d'aggraver la crise du civisme qui se trouve, cher Président, au cœur de cette communication. En effet, se projette sur le plan de la conscience individuelle et collective le désordre constaté dans les choses et dans les lois. Si les pouvoirs n'étaient pas déréglés, confondus, hypertrophiés en volume et atrophiés en force, s'il existait une harmonie des lois, il y aurait sans doute plus facilement un accord des âmes sur la notion du bien politique et le service de l'intérêt général. La solution, c'est que la loi de la majorité doit se vivre comme un contrat sous contrôle. Faire prévaloir l'avis de la majorité est le moins mauvais système que l'on ait trouvé pour exercer la démocratie. Mais l'avis de la majorité n'est qu'un substitut pratique de l'idéal et théorique volonté générale, et parce que c'est un substitut, on ne peut attribuer au fait majoritaire un droit moral absolu qui ferait que vox populi égale vox dei. Il n'y a pas de droit divin pour la majorité démocratique, pas plus que pour les 6 devant rois. Mais faire triompher effectivement l'avis de la majorité est la moins mauvaise approche de la démocratie. Tout autre système comporte plus d'injustices et d'inconvénients. Cependant, rien n'exclut la possibilité qu'une majorité puisse avoir tort. Bref, en démocratie, les erreurs que peut commettre la majorité ne doivent être ni sans appel, ni sans remède. Il est donc indispensable qu'existe un système d'institutions calculées pour assurer un équilibre chez nous, c'est le Conseil constitutionnel. Mise en place par la Constitution de la Ve République, j'attire votre attention sur le fait que cette Constitution est la 16e depuis 1791. Le Conseil constitutionnel a vu son rôle s'amplifier de période en période par l'augmentation du nombre de ceux qui peuvent faire appel à sa juridiction, puis ce fut la révision du 23 juillet 2008, la 24e depuis 1958. Cette révision a rendu possible à tout citoyen la saisine du Conseil constitutionnel, ce qui, de mon point de vue, a fait faire un grand pas à la démocratie. J'arrive, cher Président et chers confrères, à la conclusion. Il me semble qu'il ne peut y avoir de démocratie hors l'existence d'une véritable communauté politique, ce que d'autres appellent le consensus politique, dont, hélas, nous sommes un peu privés en France. Ce qui suppose que la volonté générale s'exprime par des assemblées d'hommes libres poursuivant des objectifs supérieurs aux intérêts particuliers. Car il ne suffit pas d'avoir une histoire commune, une culture identique, un destin passivement subi en commun. Il faut en plus que dans sa majorité, la collectivité poursuive consciemment des buts généraux et qu'elle accepte de prendre les moyens nécessaires pour les atteindre. Et cela sous-entend que la majorité tienne compte des avis de la minorité et qu'entre elles, le débat ne soit pas un combat. L'efficacité des institutions démocratiques suppose donc un effort constant pour rendre les hommes plus responsables et plus désireux de s'associer au service de fins communes. C'est bien ce que signifie la célèbre apostrophe de John Kennedy : « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays ». J'en terminerai par là en constatant que, de tout temps, pour construire des institutions démocratiques durables, il faut des hommes ayant le sens de leurs responsabilités et, tout simplement, sachant allier courage et solidarité.
Vous venez d'entendre Jean Cluzel de l'Académie des sciences morales et politiques. L'intégralité de cette communication se trouve sur le site de l'Académie, www.asmp.fr. Elle sera également publiée dans la revue Position et Médias dans le courant de l'année 2011.